Bonjour et bienvenue dans Bretonne, un podcast qui vous propose chaque semaine de découvrir une femme au parcours singulier et inspirant.
De Rennes à Quimper, de Morlaix à Lorient, nous, quatre étudiantes rennaises, sommes allées à la rencontre de ces Bretonnes pour parler de ce qui les passionne, qu'elles soient sportives, femmes politiques, artistes ou encore entrepreneuses.
La réalisation de ce podcast a été possible grâce à la participation d'Harmonie Mutuelle, que nous remercions chaleureusement.
Aujourd'hui, c'est moi, Lise, qui vous propose de découvrir mon échange avec Elena Manierou. Née en Espagne, Elena Manierou est l'actuelle coprésidente de Femmes de Bretagne, un puissant réseau collaboratif destiné à promouvoir l'entrepreneuriat féminin.
Bonjour et bienvenue dans le podcast. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Normalement, nous aurions dû nous rencontrer à Rennes, mais au vu de la situation actuelle, nous enregistrons cet échange sur Skype. Nous aimons bien commencer nos interviews en demandant à nos invités ce que la ville dans laquelle nous enregistrons l'épisode représente pour elles. En préparant notre échange, j'ai écouté une de vos interviews radio et vous disiez que vous aviez fait le choix de faire une année d'Erasmus à Rennes. Et finalement, j'ai un peu le sentiment que vous n'avez jamais quitté la ville depuis. Est-ce que vous pourriez me dire ce que cette ville de Rennes représente pour vous ?
Bien sûr, bonjour à tous. Donc, Elena Manierou, je vous remercie de m'avoir sollicité pour cette interview. Je trouve votre démarche vraiment top pour la mise en avant de profils bretons ou de bretons d'adoption. Alors, Rennes représente pour moi énormément de choses puisque ça fait la moitié de ma vie que j'y habite. Effectivement, je suis arrivée comme Erasmus il y a 20 ans. Pour 9 mois et ça fait 20 ans. Alors, elle représente pour moi une ville à taille humaine où je me suis sentie très bien accueillie. Il y a pas mal de similitudes entre nos valeurs, les valeurs que je viens du Pays Basque, donc les valeurs du Pays Basque et les valeurs bretons. Et juste pour l'anecdote, j'ai juste fait un passage rapide à Montpellier, un autre passage rapide à Saint-Malo, et sinon, je suis vraiment à Rennes depuis 20 ans.
Quand je vous entends, j'ai l'impression que vous semblez nourrir un attachement quand même assez profond à la Bretagne. Il y a ses habitants aussi, du coup, vu que vous êtes quand même pas mal engagés au niveau du territoire. Est-ce que vous pensez que la Bretagne a un petit plus par rapport aux autres régions, et si oui, lequel ?
Alors, je trouve qu'on peut oser en Bretagne, en tout cas, on se sent assez à l'aise, et il y a pas mal d'associations aussi, hein. Je trouve qu'il y a un élan de solidarité et d'entraide qui est très fort. Je ne pourrais pas vous dire versus les autres régions parce que je n'ai pas habité ailleurs. Mais en tout cas, en Bretagne, je sens cet élan-là. Oui, c'est vrai qu'avec l'association Femmes de Bretagne, j'ai pu côtoyer énormément de personnes engagées. Tout est très ouvert. Et puis, il y a quand même beaucoup d'innovation. Et il y a une qualité de vie géniale à Rennes, quoi. On peut tout faire à Rennes, je fais tout à vélo. Au niveau culturel, on ne peut pas se plaindre. Il y a l'OSV, les TNV, puis les cinémas. Enfin, voilà, en tout cas, moi, je m'y plais beaucoup.
Vous avez évoqué l'association Femmes de Bretagne. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours professionnel, du coup, de la fin de vos études jusqu'à à peu près aujourd'hui. J'ai cru comprendre que vous étiez dirigée, après vos études, vers les ressources humaines. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialisation ? Et est-ce que vous pouvez aussi nous raconter un petit peu, un peu faire un résumé de votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui ?
Donc, quand je suis arrivée à Rennes pour ma dernière année, c'était une maîtrise d'administration et direction d'entreprise. Donc, je suis arrivée à Sciences Éco. J'ai fini cette année et j'ai commencé à travailler d'abord dans une banque et ensuite dans une société qui s'appelle Vitalité. J'étais l'assistante du DAF, du directeur administratif et financier. Et c'est au sein de cette structure-là que j'ai découvert les ressources humaines, c'est-à-dire la formation qui justement manquait à mes collègues. Enfin voilà, je trouvais qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses pour les salariés qu'on en faisait sans dépenser forcément plus. C'est toujours une question de ce que ça coûte de l'argent, etc. Et 3 ans après, donc en 2005, 4 ans après, j'ai fait un master à l'IGR, un master 2, en management des ressources humaines. Plus pour former dans toute la partie juridique qui est quand même très pointue et qui évolue très très vite et pouvoir voilà être armée et puis avoir voilà une culture RH beaucoup plus professionnalisante. Et c'est cette master là qui m'a donné aussi l'opportunité de rebondir et d'aller voir ailleurs, hein, même si c'était pas non plus mon objectif premier quand j'ai fait ces master 2. Et du coup j'ai passer très vite de cette équipe de 70 personnes, cette PME bretonne, à un grand groupe. Donc, j'ai rejoint Canal+, où je suis restée 5 ans comme responsable de ressources humaines du centre de relations clients. Et j'ai adoré cette expérience. On était vraiment en lien aussi avec les sièges. Hein. On était les seuls sites décentralisés. Et Canal+, m'a énormément apporté sur la créativité, l'ouverture d'esprit. Voilà, c'est la direction des ressources humaines de Canal m'a mis un point d'honneur à ce qu'on soit très ouvert d'esprit et qu'on propose des solutions différentes, en tout cas des solutions innovantes. Et donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et puis j'ai rencontré des gens vraiment formidables là-bas. Alors, suite à cette expérience, je voulais retrouver une équipe plus petite parce que Canal+, c'était 4000 salariés. Et j'avais besoin de peut-être, et puis un grand groupe, hein, donc très structuré, etc. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe des Jocelyn Denis, j'ai rejoint Digitaléo en 2012 comme responsable RH. Et avec eux, on a pu mettre en place une culture de l'innovation managériale. C'était vraiment une très, très, très chouette expérience. Je suis restée presque 6 ans. J'ai eu envie, voilà, visiblement j'ai un cycle de 5-6 ans, j'ai eu envie de me confronter à d'autres challenges. Et du coup, j'ai fait un petit saut dans la santé, à nouveau, parce que Vitalité qui était dans le secteur de la santé à la base. J'ai rejoint une équipe. Malheureusement, l'activité, au lieu de croître, elle n'était pas à bon point quand je suis arrivée. Ça n'a duré qu'un an. Et j'ai découvert la fermeture de l'entreprise, toute la procédure de liquidation, qui est assez violente hein, et assez dure, en tout cas. Heureusement que ça faisait pas longtemps que j'étais en entreprise parce que moi je m'attache beaucoup aux gens et là on était une quarantaine et ça a été quand même très dur. Mais j'ai beaucoup appris, c'était très très riche hein, comme expérience, surtout avec la casquette RH. Hein. J'ai été licenciée comme les autres suite à la liquidation judiciaire et je me suis retrouvée donc l'année dernière, en début d'année, en février, mars, sans emploi. Sans savoir quoi faire, avec des propositions, mais surtout, ma flamme était un peu éteinte. Du coup, j'ai pris le temps, pendant 2 mois, de me ressourcer. Je fais un trek, c'était génial à Madère. Enfin, je fais des choses qui m'ont fait du bien à moi. C'était vraiment nécessaire aussi de passer un peu de temps pour moi. Et puis, c'est là que je me suis lancée dans la création des L180, qui a aujourd'hui un an. Donc M180, c'est quoi? C'est une méthode de 180 minutes. C'est une entreprise à mission. C'est un centre de formation qui vise à valoriser les métiers à forte utilité sociale et intention dans le cadre d'une démarche des responsabilités sociétales des entreprises. Donc concrètement, on propose aujourd'hui, donc là, on se parle aujourd'hui, on est le 5 mai 2020, on propose 2 modules de formation. J'espère que dans les mois qui viennent, il y en aura d'autres, qui tend à améliorer les conditions de travail des salariés des secteurs de la propreté, de l'aide à domicile, de la santé, de l'agroalimentaire, enfin des métiers qui sont peu valorisés aujourd'hui, mais qui pourtant ont une forte utilité pour la société. Et du coup, les 2 formations, c'est du réveil musculaire et des étirements personnalisés pour prendre soin de son corps, s'ancrer, voilà, vivre ses métiers durablement. Et puis la 2e formation, elle est plus autour de produits naturels. C'est comment nettoyer efficacement avec des produits naturels et une bonne méthodologie. Et là, pareil, c'est parce que je suis partie d'un constat que les personnes qui font ces métiers-là n'étaient pour la plupart, donc pour 95% d'entre eux, elles, on peut dire même, hein, formées. Et ce n'est pas une question de volonté, hein, les gens veulent se former, c'est que, voilà, les temps, les coûts qui sont tirés vers les bas, bref, ce sont quand même des secteurs qui sont assez malmenés et qui souffrent d'un déficit d'image, de valorisation, et donc ils sont un peu dans un cercle vicieux. Donc M180 a l'humble prétention de vouloir inverser la tendance à notre petite échelle pour qu'on change le regard sur ce métier.
D'accord, merci beaucoup pour ce résumé. J'aimerais un petit peu que maintenant qu'on aborde votre engagement chez Femmes de Bretagne. Donc, vous avez rejoint le réseau en 2018. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le fonctionnement de cette organisation et pourquoi est-ce que vous avez choisi de la rejoindre?
Alors, j'ai rejoint les réseaux en 2016 parce que j'ai rencontré Marie-Éloi lors d'une conférence au salon des jeunes femmes et numériques. J'étais déjà quand même assez... Moi, j'adore les partages, donc j'ai toujours été pas mal dans les réseaux, à témoigner si possible, et puis à écouter, à avoir partagé. Et j'ai rencontré Marie lors d'une table ronde qui s'appelait Inspirer, et on s'est retrouvés côte à côte. Et du coup, à l'issue de cette table ronde, on a sympathisé, et du coup, elle m'a dit... Voilà, je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Et j'ai commencé dans l'association. Donc, l'association, c'est quoi, Femmes de Bretagne? C'est une association en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est un réseau physique, des rencontres physiques et un réseau digital d'entraide pour pouvoir partager ses compétences, sortir de la solitude et oser entreprendre pour celles qui n'ont pas encore osé. Et pour celles qui sont en entreprise, pouvoir donner des coups de pouce hein, par rapport à leurs compétences et leur expertise. Et pour celles qui ont entrepris, de pouvoir se sentir soutenues et aussi partager leur expérience avec les autres. C'est un réseau qui a aujourd'hui 1600 adhérentes partout en Bretagne. Donc j'ai laissé région en 2016 comme Breton solidaire, c'est-à-dire j'ai donné des coups de main RH pour le coup à la structure. Femmes de Bretagne, l'association mère. Et puis très vite, j'ai rejoint les conseils d'administration en 2017 comme secrétaire. Puis en 2018, Marie m'a demandé d'être coprésidente avec elle. Donc nous coprésidons depuis 2 ans l'association toutes les deux. Nous avons 2 salariés, un CDI à temps plein, et dans les conseils d'administration, nous sommes 7. C'est bénévole, bien sûr. Hein. Tout ça, c'est fait bénévolement en dehors du temps de travail, comme on dit.
Et qu'est-ce que cet engagement vous a apporté et vous apporte encore aujourd'hui dans votre vie professionnelle et personnelle?
Alors, ce qui est pas du tout palpable quand on n'est pas dans les réseaux, c'est l'énergie qu'on reçoit et l'énergie qui circule dans ces réseaux-là. Alors, parler d'énergie, ça peut paraître abstrait, mais... Moi, je suis allée à pas mal d'ateliers, des rencontres. Et en fait, on voit tout de suite la bienveillance, comment les femmes, elles rentrent avec un état d'esprit, elles ressortent avec un état d'esprit totalement différent à la fin de la rencontre. Et c'est toujours hyper positif. Donc, on vient souvent avec pas mal de peurs, des freins, et on en ressort hyper reboosté. Et donc, non seulement on ressort reboosté, mais on ressort avec des astuces, avec des contacts, avec des démarches à faire, avec des amis. Enfin voilà, donc tout ça qui n'est pas quantifiable comme ça a priori, et ben c'est une énergie hyper positive. Alors on a essayé quand même de quantifier aussi hein, quel était l'impact business de Femmes de Bretagne, et on a fait une étude qui date déjà de 2018, voire fin 2017, qui disait que un emploi sur 500 en Bretagne était soutenu par les réseaux. Et on était un réseau beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 84 bénévoles qui animent plus de 41 villes, c'est-à-dire que dans 41 villes, dans tous les territoires bretons, qu'on soit dans les centres Bretagne, dans les Finistères, peu importe, même la Loire Atlantique, nous avons des villages et des villes qui animent donc des ateliers de rencontre. Donc l'idée, c'est avoir partout de la proximité, on puisse avoir des conseils, des échanges. Voilà.
Donc vous nous avez un peu parlé de votre parcours professionnel, vous avez été salarié dans différentes entreprises. Et pourtant, c'est que cette année ou l'année dernière, il me semble que vous avez annoncé la création de votre entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez attendu autant de temps avant de vous lancer? Est-ce que finalement, cette envie d'entreprendre, elle a toujours été un petit peu au fond de vous? Et est-ce que justement votre engagement chez Femmes de Bretagne vous a aidé justement à un peu développer votre envie d'entreprendre?
Je pense que j'ai toujours eu une fibre entrepreneur. En tout cas, dans ma famille, c'est le cas. Mais je ne les porte pas comme ça. C'est-à-dire que je ne savais pas, je ne m'étais pas fixée un âge ou autre pour entreprendre. Et puis, comme j'ai toujours eu besoin d'une équipe, c'est-à-dire qu'en tant que responsable RH, en tant que RH, on est là pour les autres. Donc, c'est lancé dans une aventure entrepreneuriale. Ça peut parfois dire être tout seul, un autre entrepreneur, je me disais, c'est pas pour moi ça. En revanche, entreprendre, c'est-à-dire proposer une offre de valeur qui n'existe pas, C'est sûr que c'est hyper intéressant. Après, ça s'est fait naturellement. Et c'est pourquoi à 40 ans parce que la vie a fait ainsi. C'est-à-dire qu'à 40 ans, pour le coup, j'avais assez d'expérience cumulée dans mes différents postes, dans les différents environnements. J'ai un réseau aujourd'hui aussi qui me permet d'être soutenue et de pouvoir les consulter. Ces réseaux-là, je n'aurais pas pu l'avoir à 20 ans. Donc, je pense que les planètes s'alignent. Et puis après, l'idée. L'idée, elle vient des tripes. Hein. En tout cas, dans mon cas, ce n'est pas une idée qui m'est venue en me disant « je vais faire du business ». Absolument pas. J'ai vécu une situation chez moi qui m'a paru injuste. Et cette situation injuste, elle n'est pas partie. C'est-à-dire, elle m'a pris aux tripes et elle est restée 2 ans. Donc, la situation que j'ai vécue, c'est le prestataire de service qui travaillait chez moi pour faire le ménage, la prestation de ménage. Je les voyais en difficulté. Il y avait du personnel qui passait, qui tournait. Et j'avais jamais la même personne, très rarement. Et quand la même personne était là, le ménage n'était pas toujours fait de la même manière. J'ai dit, c'est quand même dommage. Et du coup, j'ai décidé de parler avec ces femmes, en l'occurrence, qui venaient chez moi pour voir, essayer de comprendre pourquoi. Et de cette situation que j'ai vécue comme injuste, j'ai essayé de comprendre. Et c'est là qu'en les écoutant, je me suis dit, mais en fait, on peut les aider, on peut faire des choses pour que ça soit au mieux pour tous. Et donc, je pense que je suis il y a tellement de gens qui ont dû se dire la même chose, mais tellement que ce n'est pas du tout novateur. En revanche, de se dire que ça, c'est l'idée, comment je la mets en action et par quoi elle se concrétise, ça a été une question de timing. Et l'année dernière, j'étais sans emploi, j'aurais pu rester dans une entreprise en tant qu'RH. Je me suis dit, non, c'est maintenant que je vais essayer de trouver une solution à cette situation. Et si je peux faire quelque chose, tant mieux. Et si je ne peux pas, tant pis, je ferai autre chose après.
C'est vrai que moi, personnellement, je suis pas mal intéressée par l'entrepreneuriat. Et est-ce que vous auriez des conseils pour moi, mais aussi pour les femmes et les hommes qui nous écoutent et qui sont peut-être aussi animés par cet esprit entrepreneurial et qui envisagent peut-être un jour de créer leur entreprise? Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner?
Déjà, ayez confiance en vous. Le moment arrivera. Si ça doit arriver, ça va arriver. Profitez de chaque expérience professionnelle, de chaque expérience perso pour vous former. Apprendre un maximum. Et puis, moi, je trouve que dans la vie, il faut être généreux. C'est-à-dire que apprendre, c'est bien. Donner aussi. Et la vie vous le rendra. Et quand on est entrepreneur, on se sent parfois très, très seul. Et le fait d'avoir un réseau, d'avoir des gens autour de soi, ça donne un courage, une énergie très importante. Donc voilà, mes conseils, c'est apprenez tout ce que vous pouvez pour le redonner ou en tout cas pour transmettre après. Et votre projet, s'il doit voir les jours, il verra les jours. Et attention, c'est souvent une question de timing. On peut avoir des très très bonnes idées, mais il faut être dans les bons timings aussi.
J'ai le sentiment qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui hésitent à se lancer dans des carrières, dans des grandes entreprises notamment, ou à créer leur propre entreprise, de peur de ne pas pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. J'ai quand même le sentiment, enfin en tout cas, vous allez me dire, que les choses commencent petit à petit à changer grâce à des mouvements sur les réseaux sociaux, mais aussi à des initiatives comme Femmes de Bretagne ou à des différents podcasts, je pense notamment à Génération XX. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez vu un changement depuis votre lancement dans la vie professionnelle? Et est-ce que vous pensez que les femmes qui sont issues des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail entreprennent plus ou alors vont entreprendre plus dans les prochaines années que leurs prédécesseurs?
En tout cas, je l'espère sincèrement. En 30 ans, le volume des femmes entrepreneurs a très peu évolué. Et quand on a des femmes entrepreneurs, elles restent dans des TPE inférieures à 10 salariés. C'est rare de voir des femmes entrepreneurs. Il y en a, mais pas très très nombreuses, à la tête des grandes entreprises. Et c'est pareil pour les postes des hauts dirigeants dans les grands groupes. Donc il y a toujours un plafond de verre. Alors ces plafonds de verre, est-ce qu'on s'est mis nous-mêmes des freins? Est-ce que c'est la société? J'allais dire les deux, c'est sûr. Donc Femmes de Bretagne et tous les autres podcasts et tout cet élan-là nous permet d'élever ces freins, de nous dire que c'est possible. Et puis, des astuces pour oser. Et après, je pense qu'il y a une question aussi essentielle, c'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite pour soi? C'est quoi la réussite pour chacun? Et c'est ce type de questions qui peuvent nous permettre de nous lever des freins. Beaucoup de personnes, ou en tout cas, dans les années précédentes, réussir, c'était évoluer dans un grand groupe, être cadre. Alors, ces statuts cadre, il n'est que français, hein, sachez-le, ça n'existe pas ailleurs. Ça m'a toujours fait beaucoup sourire. Bref, donc les gens qui visent être cadre, et à évoluer dans des grands groupes, c'était associé à de la réussite professionnelle. Aujourd'hui, on se rend compte que ça ne répond pas forcément à tous les besoins. Et donc, cette question de c'est quoi la réussite pour moi, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est avoir une vie familiale, est-ce que c'est travailler dans quelque chose qui a du sens, c'est censé, si on arrive à répondre à ces questions-là, on sera mieux dans notre chemin. Et je pense que quand on est aligné avec soi-même, c'est-à-dire quand on peut se regarder dans la glace en disant « là, je suis bien, quoi. Je suis bien, je suis moi-même. » Mais derrière, on est peut-être à sa place et c'est là où qu'on rayonne le plus, d'ailleurs. Donc, j'espère, oui, que demain, il y aura beaucoup plus de femmes entrepreneurs, beaucoup, beaucoup plus, qu'on arrive aux 50%, voire plus, parce que la société en a besoin et c'est un équilibre qu'on doit chercher.
J'aimerais bien revenir un petit peu sur ce que vous avez dit par rapport au grand groupe. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez eu une expérience de 5 ans chez Canal+, qui est quand même, bah, comme vous l'avez dit, une très grosse entreprise. Depuis 2016, il me semble, il existe une loi qui impose au conseil d'administration des entreprises cotées, comme Canal+, de compter au moins 15% de femmes dans leur rang. Est-ce que vous êtes pour ce type d'initiative, d'imposer des quotas, par exemple, ou pas?
Alors, il y a eu beaucoup de lois, hein, qui sont en faveur de l'égalité professionnelle. Alors, la loi Copé-Zimmermann, dont vous faites référence, et l'impose 40% de femmes ou d'hommes dans un conseil d'administration. C'est-à-dire qu'au moins 40% d'un sexe doit être représenté. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la diversité, on croit tous que c'est la diversité qui fait la richesse. Est-ce qu'on a besoin de passer par les quotas et par les lois? Au fond de moi, j'ai envie de dire, j'aimerais que non. Mais la réalité fait que même avec ces lois-là, le chemin est long. Donc, s'il faut passer par là, bah, allons-y.
Et toujours dans cette même veine, on va dire, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que plusieurs entreprises avaient déjà commencé à prendre des mesures pour lutter notamment contre les comportements sexistes ou pour favoriser l'ascension des femmes dans les grandes entreprises. Par exemple, Danone a créé il y a plusieurs années le programme Eve qui, d'après leur site, a pour objectif de casser le plafond de verre. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative et plus généralement, qu'est-ce qui est fait ou peut être fait par les entreprises pour lutter contre les comportements sexistes ou alors pour favoriser l'ascension des femmes dans les groupes ou dans les entreprises de manière générale?
Alors, je suis totalement pour ce type de démarche et je pense que c'est au niveau de l'éducation et au niveau de nos jeunes enfants qu'il faut que l'égalité soit intégrée dès le plus jeune âge. Et l'égalité passe par... bien sûr, comment on s'habille. Il y a tellement de stéréotypes, tellement. J'ai regardé une vidéo l'autre jour sur comment on gère l'argent. Et c'est hallucinant, mais on ne les gère pas pareil. Parce que depuis le tout jeune âge, on ne nous a pas appris à les gérer de la même manière. Donc si, dès l'école... Enfin, et les parents, hein, on a un rôle très très important, nous parents. Si on était dans des éducations beaucoup plus égalitaires, moins sexistes, hein, ce qui est le cas dans certains pays, hein, dans lesquels le rose est totalement banni, et pas plus loin qu'en Allemagne, hein, c'est les jouets, tout ça, c'est beaucoup moins genré, je pense que tout ira mieux. Alors, il y a des initiatives en France qui vont dans ces sens-là, donc moi je suis confiante. En tout cas, quand je vous entends, je me dis, bon, ben voilà, la nouvelle génération qui a envie d'entreprendre, c'est une jeune femme, elle fait Sciences Po, et ben, elle sera bien armée pour entreprendre. Et ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Il y a des initiatives aussi d'entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui font des jouets non-genrés, qui poussent aussi la mixité dans leurs équipes, qui leur paraît normal. Et bien, tant mieux. Ce sont ces initiatives-là et tous ensemble qu'on arrivera à casser les stéréotypes qui font que la société aujourd'hui soit moins favorable à l'entrepreneuriat féminin.
Donc avant de se quitter, je voudrais vous poser la question qu'on pose à toutes nos invitées, qui est un petit peu la question rituelle de notre podcast. Quel lieu conseilleriez-vous à quelqu'un qui pose pour la première fois le pied en Bretagne?
Un seul. Ah, c'est difficile. Alors, les incontournables pour moi, en tout cas ce que je conseille quand les étrangers viennent en Bretagne, c'est bien sûr Rennes, Saint-Malo, Fougères. Ces trois-là. Après, si on a le temps, et ben, on va aller voir Carnac, Quimper, Concarneau. Vitré aussi, j'aime beaucoup la petite ville de Vitré, magnifique.
Merci beaucoup, Elena, pour toutes vos réponses. Merci pour cet échange qui a été très enrichissant. Voilà, on vous souhaite bonne continuation et à bientôt peut-être pour une prochaine interview ou pour autre chose. Merci beaucoup.
Avec grand, grand plaisir. Merci à vous, les filles. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou partager autour de vous. C'était le dernier épisode du podcast Bretonne. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à rencontrer ces femmes inspirantes. Vous pouvez toujours retrouver nos épisodes sur les différentes plateformes et nous suivre sur les réseaux sociaux sur les comptes de Bretonne Podcast. Nous vous remercions encore chaleureusement et à bientôt peut-être.